Vous écoutez France Musique.
Aujourd'hui, Django Reinhardt avec Roman. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 50e émission du Matin des musiciens, comme chaque mardi consacré au jazz. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le génie singulier de Django Reinhardt en nous glissant au plus près de sa musique, qui reste encore pour une part méconnue, voire mésestimée. Il faut dire que le monde de Django Reinhardt ne se résume guère à quelques clichés, qu'il en est furieusement économe lui-même et que le musicien n'aime pas se répéter. Amoureux de la chanson autant que de Louis Armstrong, Django est avant tout un formidable mélodiste, mais on le découvre aussi novateur sur le plan du langage harmonique. La reconstruction de sa technique après son accident lui a sans doute fourni quelques clés en la matière, nous en reparlerons, et un compositeur aussi habile dans le développement d'une idée que dans l'inspiration dynamique. Ajoutez à cela sa formidable efficacité rythmique qui dépasse le cadre strict du swing pour annoncer l'avenir, et l'on constate que Django se révèle bel et bien un moderne farouche et fantasque jusque dans ses dernières apparitions où le vent de l'expérience semble décontenancer ses partenaires. Et pour évoquer ce matin cette grande figure du jazz versant musicien, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui vit en djangologie depuis toujours. Il est tombé dedans lorsqu'il était tout petit et depuis, il s'est construit son propre monde, mais il reste aussi l'un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Django et pas seulement à la guitare. Bonjour Roman.
Bonjour Arnaud.
Vous êtes tombé dedans tout petit.
Ouais, c'est ma famille qui est tombée dedans. Ça remonte à mon grand-père. On est tombé dans la musique, en fait, hein, et plus spécialement dans le Django. Ça, c'est très lié à mon père qui a rencontré un gitan pendant la guerre, et à Paris, pendant la guerre, les gitans, ils se cachaient quand même un peu. Et en fait, son meilleur ami, voilà, s'appelait Spazio Adel, et ils ont joué ensemble pendant des années, et donc, la musique de Django était récurrente à la maison. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait jouer de la guitare autrement que comme ça. C'est-à-dire pour moi, la guitare, c'est comme ça, à tel point que quand j'allais à l'école, tout petit, et les copains, ils écoutaient les Beatles, et moi, je ne savais pas ce que c'était, et pour moi, ça ressemblait à rien, quoi. Pour moi, c'était Django. Donc, c'était un peu bizarre, quoi. J'étais un peu en décalage à l'école, mais bon. J'ai appris plus tard que les Beatles, c'était bien aussi. Mais c'est terrible, ce que la culture peut faire.
C'était la musique dont vous rêviez. I see you in my dreams. Thank you. enregistré le 30 juin 1939, un bon vieux standard de Isham Jones, I'll See You In My Dreams, avec Emmanuel Soudio à la contrebasse et Barreau Ferré à la deuxième guitare, Django Reinhardt soliste. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'absolument extraordinaire dans ce solo, Roman ?
Il est mystérieux, ce chorus, parce que...
C'est évidemment une improvisation totale de Django.
Oui, c'est une improvisation totale et à la fois, c'est une pièce. Et ça pourrait être une pièce écrite, puisqu'il n'y a aucune redite. Ça raconte une histoire du début jusqu'à la fin. On a des points de conduction dans tout le chorus. Par exemple, ces petites notes tirées qui reviennent tout le temps.
Oui,
voilà,
très vocales. Ouais.
Qui reviennent à peu près tout le long de l'improvisation, construites toujours sur un plan rythmique, à peu près de manière identique. Il est important pour moi parce que quand j'étais tout petit, je ne comprenais pas Django. C'était trop compliqué pour moi, c'était inaudible. Donc j'ai écouté des guitaristes beaucoup plus faciles, comme Henri Crolla, comme...
qui était l'accompagnateur du Montant, entre autres.
Par exemple. Ouais. Et il aura fallu que j'attende d'avoir, on va dire, 10 ans pour entendre Django. Mais alors le jour où on l'entend, c'est un coup de massue sur la tête.
Alors ça vous a marqué, parce qu'il faut que je précise aux auditeurs que quand vous écoutiez le disque à l'instant, vous avez quand même pris votre guitare pour jouer en même temps que le disque, le solo de Django Reinhardt,
ouais,
que vous connaissez encore par cœur.
Oui, et ce thème, il est particulier parce que comme c'est le premier que j'ai entendu... C'est le premier qui m'a marqué, c'est lui qui m'a mis le coup de massue. Et dès que je l'ai entendu, j'ai dit, c'est ça que je veux faire et je veux jouer ça. Et donc je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai donc pris la guitare de mon père et j'ai bossé comme un acharné pendant 2 jours, non-stop, la nuit, pour jouer ça. Donc je ne savais pas jouer de guitare et au bout de 48 heures, je jouais le chorus de Django. Enfin, j'en jouais au moins la moitié. Et donc mon père, en rentrant du boulot le soir, tout à fait par hasard, il ouvre la porte et il entend ça. Il fait « Mais c'est quoi ça ? T'es fou ? T'es malade ? C'est très difficile à jouer en plus. » Il dit « Mais tu sais faire quoi d'autre ?» Je dis « Ben, c'est tout. » Alors après, j'ai eu interdiction de faire des chorus et j'ai dû apprendre toute la rythmique. Voilà. Il m'a dit « Quand tu seras accompagné, tu pourras te permettre de jouer devant. »
Alors précisément, ces petits effets, comment vous diriez, de bend ou de...
C'est des bends, hein, ouais, c'est ça.
Ces petits effets presque vocaux, comme un chanteur de blues ou un chanteur de jazz, ça vient probablement de ce désir de se rapprocher de la voix humaine des chanteurs, de son amour d'Armstrong, probablement qu'il a écouté avec Émile Savitri. On en parlait la semaine dernière avec Vincent Bessières. C'est quelqu'un qui était proche de la chanson, qui voulait toujours jouer des mélodies, même les plus sophistiquées soient-elles.
Mais je crois que c'est l'art de tous les grands improvisateurs. C'est-à-dire que l'instrument n'est qu'une prothèse qui leur permet de pouvoir chanter. Parce que tout le monde n'a pas la voix de Louis ou
de Lafayette
Gérald ou de Jean Sablon. Et n'ayant pas cette voix-là, on se cache derrière son instrument pour pouvoir faire la même chose.
Alors lui, il adorait Louis Armstrong. Il l'a rencontré un petit peu plus tard, même plusieurs fois. En revanche, il était assez proche de Jean Sablon, que vous avez connu, Roman.
Oui. J'ai eu la chance de rencontrer Jean Sablon, qui était un homme formidable, très élégant, très très doux, très gentil.
Et qui adorait Django.
Qui adorait Django.
Et qui racontait des histoires assez drôles sur leur compagnonnage.
Oui, il m'en a raconté une bonne d'ailleurs, je vais vous la citer. Il était évidemment très ami avec Django et Django le lui rendait bien. Et ça se passait en hiver, Django était sur la Côte d'Azur avec sa femme. Jean Sablon n'était pas très loin, mais dans la montagne, à 2000 mètres d'altitude. Django appelle Jean Sablon, comme ça, voilà, pour avoir de ses nouvelles. Et puis, Jean lui dit, écoute, je suis dans un super hôtel 4 étoiles, là, on devait être à la Plagne ou un truc comme ça. Il dit, c'est un endroit magnifique, tu ne peux pas savoir, c'est superbe. Écoute, je t'invite, viens avec ta femme, tu auras une magnifique chambre, vous serez bien et tout. Venez, c'était pas loin, t'es à 200 bornes, 300 bornes. Ah oui, la Côte d'Azur à Nice, pour aller en montagne, c'est pas très loin, c'est sûr. Et Django prend sa voiture, il avait une américaine, une décapotable, mais on est en hiver. Et passé 1000 mètres, il fait moins 15. Et la capote se ferme pas. Et Django se dit, mais attends, on n'est pas loin, on est à 50 bornes, on va y aller là maintenant. Et il va donc faire le chemin jusqu'à l'hôtel. Et on se demande comment, parce qu'arrivé à l'hôtel, Jean Sablon va le récupérer à la sortie de l'hôtel. Ils ont les cheveux tous les deux congelés, la moustache congelée, mais ils sont dans un état, mais limite hôpital quand même. Et il va mettre 6 heures à le réchauffer avec des couvertures et des trucs. Enfin, c'est insensé, quoi. Ils sont montés par moins 20 à 2000 mètres d'altitude. Et quand Jean il raconte ça, il dit « mais il faut le voir pour le croire ».
Thank you.
pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petite aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit, le ciel était si doux, la mer si belle. Oui mais voilà ce soir, j'ai froid et je m'ennuie. Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie? J'ai mes chaussettes qui font trempette, j'ai des frissons de la tête aux talons, et dans la brume, j'attrape un rhume. Combien de garçons sont-ils morts de cette façon? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Nino, pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie, petit aux yeux si doux, trésor que j'aime. Tout seul comme un idiot, j'attends là et je m'ennuie, et je me pose aussi quelques problèmes. Pourtant on s'est connu par une claire nuit, dans tout le casino c'était la fête. Pourquoi m'avoir dit oui tout en baissant la tête? Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sous la pluie?
Décembre 1935, Django Reinhardt a 25 ans. Rendez-vous sous la pluie, une chanson co-signée Johnny Hess et Charles Trenet, interprétée par Jean Sablon, avec ici Stéphane Grappelli au piano, Joseph Reinhardt à la deuxième guitare et Louis Vola à la contrebasse. C'est très tôt dans l'itinéraire de Django Reinhardt. On sait qu'il a beaucoup accompagné les chanteurs. Tous n'étaient pas du niveau de Jean Sablon, hein, Roman.
Non, non, non. Django était très exigeant, hein, de toute façon, sur la qualité artistique des uns et des autres.
Il a aussi enregistré en compagnie de Charles Trenet. Puisqu'on parle de Charles Trenet, il y a un document qui compte pour vous, c'est « Mes jeunes années » interprétées par les compagnons de la chanson en 1949. Et on retrouve le même principe d'accompagnement avec cette guitare en contrepoint, en contrechamp, avec les trémolos de guitare, l'introduction de la guitare.
Le son de cette
mais,
guitare.
Mais on ne sait pas qui est le guitariste. Alors c'est quelqu'un qui est proche dans l'esprit en tout cas.
Oui, oui, mais de toute façon, je pense qu'à cette époque-là, tous les guitaristes voulaient jouer comme Django. Il était le maître incontestable. Et tous essayaient de faire ça. Et il se trouve que dans Les Compagnons de la chanson, je pense que c'est un des chanteurs qui jouait comme ça et qui avait une vieille Busato. C'était pas une Selmer. Django jouait sur une Selmer. Et à cette époque-là, il y avait un deuxième luthier italien qui s'appelait Busato. Et ça valait beaucoup plus cher qu'une Selmer. Je le sais parce que mon grand-père en avait une aussi.
Selmer, c'est pas très italien, c'était Selmer Macaferri.
C'était Selmer Macaferri, ouais. Voilà. Et Busato, mon fils en a une, puisque c'était celle de mon grand-père, donc ouais. De son arrière-grand-père, de 1939.
On va écouter « Mes jeunes années » par les compagnons de la chanson 1949. Alors, si parmi les auditeurs, certains identifient le guitariste, écrivez-nous.
Et les les sources vagabondes, loin des fraîches chansons des eaux, loin des cascades qui grondent,
je songe, et c'est là ma chanson, au temps béni des premières saisons.
Mes jeunes années, chanson de Charles Trenet par les Compagnons de la Chanson en 1949, avec ce contre-champ de guitare tout à fait proche de l'esprit, en tout cas, de Django Reinhardt. Qui dit chanson dit mélodie, en tout cas.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui est un mélodiste absolument extraordinaire, aussi bien quand il écrit des thèmes que dans ses improvisations.
Oui.
Un thème comme Hanuman, qui date de la toute fin de la vie de Django Reinhardt, qui est mort très jeune en 1953, à 43 ans. Hanuman, qui est un thème assez moderne pour l'époque. C'est quelque chose qui ne peut se jouer que si on le chante, quasiment.
Oui, c'est une composition de 1952 que j'ai entendue de nombreuses fois quand j'étais jeune, et je ne pouvais pas la jouer. Je ne pouvais pas, jusqu'au jour où je me suis lié d'amitié avec Babik Reinhardt, le fils de Django. On a joué pas mal ensemble, et un jour, il m'a expliqué comment jouer Hanuman. Il me l'a chanté, et il m'a fait entendre ce qu'il voulait dire. Les cris, les pleurs, la portée de ce truc-là.
Babik Reinhardt, que vous évoquiez, le fils de Django, nous a quittés il y a quelques années.
Oui.
Aujourd'hui, Roman, vous êtes venu avec deux de vos fils, oui. Pierre Manetti et Richard Manetti, qui sont très jeunes. Et précisément, si vous voulez bien rejoindre vos guitares, on va vous écouter dans votre version de Hanuman, le trio Roman Family. C'est la première fois sur France Musique.
C'est la première fois.
Avec Roman, Richard Manetti et Pierre Manetti, Hanuman de Django Reinhardt.
Thank you.
Hanuman de Django Reinhardt, composition reprise ici par le trio Roman Famini, avec Roman, bien sûr, Richard Manetti et Pierre Manetti, pour nous, ici au studio 119 à Radio France, pour le Matin des musiciens sur France Musique. On évoque Django compositeur, Django mélodiste. Une autre mélodie très connue, c'est celle de Manoir de mes rêves, Roman.
Oui.
Comment est-elle construite, cette mélodie ?
Trois fois rien. Il faut tout chanter pour pouvoir le faire. Dans cette mélodie, de l'air partout. C'est juste deux notes, et de l'air. Et
un tapis mouvant. Un tapis...
Voilà, c'est ça. Et en fait, Django, on sent que tout ça sont des expérimentations. Il essaye des choses. Il a été très inspiré par Claude Debussy. Ça, c'est typique dans cette mouvance-là. Beaucoup d'air. On sent que, en fait, c'est un grand orchestre qui voudrait. Mmh. Bon, il va le faire avec sa guitare, mais c'est très simple et à la fois très compliqué et chargé en émotions.
Ce manoir de ses rêves, il l'a enregistré à plusieurs reprises. La version de 1953 est peut-être un petit peu moins connue et pourtant elle va loin.
Elle va beaucoup plus loin. C'est deux mois avant sa mort et elle est empreinte d'une modernité absolument incroyable.
Maurice Vander au piano, Pierre Michelot à la contrebasse et Jean-Louis Vial à la batterie sont autour de Django.
Thank you.
La dernière version de la composition de Django Reinhardt, Manoir de mes rêves, en 1953, avec Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial, c'est le Django novateur, le Django moderne que l'on entend ici, y compris à la fin de son improvisation, où il part sur des contrées où les musiciens ne semblent pas vraiment le suivre. Hein. Maurice Vander, qui est un excellent pianiste par ailleurs, était très jeune à l'époque, ouais. Et il ne le suit pas dans sa recherche mélodico-harmonique ici.
Oui, ils ne sont pas à l'affût. Ils n'ont pas encore les oreilles qu'il faut avoir. Ils sont très jeunes. Il a 23 ans.
Ouais.
Voilà, 23 ans. Et c'est des musiciens de jazz en devenir. Ils ont beaucoup de choses à comprendre, à entendre. Et peut-être qu'ils le pensent dépassé. Ils jouent avec le vieux, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ils ont ce rapport-là. Ils ne se rendent pas compte de l'énormité de...
Il a 20 ans de plus qu'eux.
Voilà. Ouais. Et Pierre Michelot, beaucoup plus tard, va se trouver confronté à refaire un disque avec le chorus de Django. Parce qu'il se trouve qu'en 1953, c'est la première fois qu'il enregistre en deux pistes. Et donc, ils vont pouvoir isoler la guitare de Django et refaire des arrangements avec les guitares Unlimited. Mmh. Et sauf que Pierre Michelot va faire les arrangements. Et lui-même, il va dire, mais qu'est-ce que j'étais con à cette époque-là, mais j'ai rien entendu du tout. Shit. Alors, il a fait des arrangements magnifiques d'ailleurs. Quel dommage. On n'en a pas profité quand on était jeune à ce moment-là, on ne s'est pas rendu compte. Ben ouais, parce que je pense que c'est toujours pareil, il faut de la culture, il faut évoluer. Et ce qu'on entend à 20 ans, ce n'est pas la même chose à 40, c'est encore pas la même chose à 60.
Nous sommes en 1953, Django va disparaître quelques semaines plus tard, donc il a 43 ans, mais dès les années 30, il s'est forgé une nouvelle technique consécutivement à un très grave accident, l'incendie de sa roulotte.
En 1928.
En 1928, il s'est reconstruit une technique guitaristique. Est-ce que ça a changé quelque chose aussi, cette manière de jouer de la guitare avec deux doigts atrophiés à la main gauche? Est-ce que ça a changé, y compris le langage de Django?
Oui, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que il est parti d'un univers de guitariste.
Banjoiste de balle aussi.
Banjoiste ou guitariste, c'est-à-dire jouer d'un instrument avec tous ses doigts et toute la technique que ça implique, à un musicien qui, malgré le handicap, va transmettre des sons par tous les moyens sur son instrument. Et par tous les moyens, quand il reste que deux doigts, ça veut dire aller chercher les notes. Et chercher les notes inspirées directement par le cerveau. Il n'y a plus d'histoire de technique, de machin, il ne peut pas. Donc il va bricoler une technique et il va se rendre compte qu'on peut parcourir le manche en le traversant sur un plan horizontal, plutôt que sur un plan vertical. Et de là, des glissando, il va tirer sur les cordes. Il va développer une force énorme aussi dans son index et dans son majeur, puisque ce sont les deux seuls doigts qui vont travailler et qui vont faire un boulot à eux deux absolument remarquable. Et donc, il va avoir une force incommensurable dans ses deux doigts qui amène le son de l'instrument. Parce que comme tous les instruments à cordes, le violoncelle ou autre, la pression de la main gauche est très importante. Et là, Django va développer un truc inimaginable.
Ça veut dire que son auriculaire était complètement inutilisable, voilà. Que son annulaire, il pouvait s'en servir pour des accords?
Non, l'auriculaire et l'annulaire sont pliés, recroquevillés.
On le voit sur des photos.
Voilà, recroquevillés sur l'intérieur de la main. Ils sont bloqués dans cette position. Et Django va s'en servir comme d'un pivot, comme d'un appui pour les accords. Donc en fait, ils vont devenir des altérations dans ces accords. Mmh. Il pose sa main sur le manche.
Alors, on est à la radio, donc
on est à la radio.
Alors, on vous imagine, voilà, vous prenez votre guitare.
Un guitariste traditionnel fera un accord de sol majeur de cette manière. On va bien entendre une fondamentale, une tierce, une quinte. Bon, très bien. Django, ça, il ne peut pas vraiment le faire. Ou alors, il pourra faire sur trois doigts, les trois dernières notes. Mais du coup, il va se mettre dans sa position avec ses deux doigts recroquevillés et il va faire un accord plein dans lequel, d'un seul coup, va transparaître ces deux notes, une neuvième, une sixte, dans un accord parfait majeur. Donc il va altérer tous les accords. Un accord septième qu'on aurait dû faire de cette manière, un ré septième, ça il ne peut pas le faire non plus. Donc il va faire ça. Donc il va faire ré neuvième. Et quand il va faire une septième, il va le faire à deux doigts de cette manière-là. Et chez lui, va naître des idées, alors après, de transposition. Et pour lui, un accord comme celui-ci va lui permettre d'aller sur un sol, par exemple. Ce que nous, on va appeler dans le jazz aujourd'hui, la substitution tritonique.
Oui, je pense que ce n'est pas le mot qu'il employait.
Pas du tout.
On dit, par exemple, que les musiciens qui n'avaient pas appris la musique de manière académique autour de Django, au lieu de dire Do, Sol, septième, ils disaient Do changé. Pour le Sol septième, c'est vrai cette histoire-là.
C'est exact. Ouais,
Do changé, Do.
Voilà, mais oui, c'est très logique. Ouais. Ils ont inventé l'harmonie, de toute façon. Enfin, je veux dire, ils ont mis des mots là où ils n'en avaient pas. Donc Do changé, c'est très logique, puisque c'est la porte qui ouvre sur le premier degré. Hein, l'accord de septième nous emmène inévitablement sur un accord de premier degré, donc un Do, par exemple, Do majeur étant en premier degré, Sol étant la porte, le cinquième degré. Donc c'est le Do changé.
Alors, puisqu'on parle de modulation, en ce qui concerne le blues, il a joué un certain nombre de blues de Django, mais pas tout à fait à la manière des Américains.
Oui, c'est-à-dire qu'il était passionné, manifestement. Je pense que Savitri lui a fait entendre...
Émile Savitri, le peintre et photographe que nous évoquions la semaine dernière.
Il a fait entendre des vieux enregistrements pour nous, mais pour lui, c'était tout jeune.
Bien sûr.
Et donc, quand Savitri lui a fait écouter ses jazzmen américains, il a tout de suite perçu la note bleue. Il a tout de suite compris que là, il se passait un truc, que les mecs, ils n'étaient pas tout blancs.
Donc, on l'entend dans son phrasé de guitare, mais cette note bleue.
Voilà.
Mais quand il joue le blues, il ne joue pas forcément de la même manière.
Et non, il va le percevoir très curieusement, comme va le percevoir Arthur Smith dans Guitar Bogey en 1941, comme les Blancs le perçoivent à cette époque-là. C'est-à-dire avec un premier accord majeur, alors que dans le blues, il est toujours septième. C'est-à-dire que... Eh bien, ça s'entend bien dans Guitar Bogey. Un blues, un vrai blues, ça serait... La mi-septième, la septième. Bon, voilà, ça, ce serait le blues. Mais chez Arthur Schmitt, c'est pas ça. Quand il fait... Là, on a un accord parfait majeur. Pas de septième.
Pas septième, ouais.
Elle va arriver après. Et elle va, on va l'entendre dans la mélodie. La majeure. La mineure. Et on va revenir sur un mi majeur. Donc on est loin du blues noir. C'est un blues irlandais peut-être.
Ou belge comme ici se place de Brouckère.
Je sais pas.
Thank you.
16 avril 1942 à Bruxelles, place des Brouckères de Django Reinhardt, avec bien sûr Django en soliste et un grand orchestre dirigé par Fred Kendricks. Un bel enregistrement avec son tube big band derrière, Romain.
Oui, moi ça me fascine et ça me paraît même presque surnaturel. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, on vient d'entendre Django qui joue de la guitare acoustique. On entend son vibrato, on entend tous les détails de ce qu'il fait. On est en quelle année là ?
42.
On est en 1942. En 1942, il n'y a pas 50 micros sur scène, il y en a un. Voilà, on le met devant Django, histoire quand même qu'on entende un peu la guitare. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé devant un big band à 2-3 mètres. Moi, j'ai fait ça au Québec. Là, j'ai joué avec un big band, j'ai fait 3 concerts. Et je me suis dit, génial, je vais pouvoir tester pour la première fois de ma vie ma guitare acoustique avec un big band. Alors, je me suis mis devant l'orchestre et j'ai démarré à morcer avec eux. Eh bien, à la deuxième mesure, je n'entendais plus une note de mon instrument. Mais quand je dis plus rien, je n'entendais plus rien. Dès que les trompettes, les trombones ont démarré, ça a été terminé. Dès qu'il y avait un background, fini. Donc, j'ai repris ma guitare électrique, j'ai balancé 300 watts pour pouvoir m'entendre avec le big band et j'ai fait 3 concerts.
Alors, à quelle explication ? Est-ce que le big band belge jouait vraiment pianissimo ou est-ce que Django avait une puissance de feu ?
Les instruments étaient probablement un peu moins puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui, ça c'est certain. Mais tout de même, ça reste énormissime. Je pense que Django avait cette faculté de se détacher, d'avoir une écoute globale, d'avoir une grande confiance en lui. Et donc, il sait qu'on va l'entendre dans le micro, donc il ne s'affole pas, il ne s'énerve pas, il ne tape pas très fort, puisqu'on entend toutes ses nuances et tous ses vibratos. Enfin, il a une maîtrise du son qui est juste faramineuse. J'ai du mal à me l'expliquer. J'ai vraiment du mal à me l'expliquer.
Une intuition mélodique extraordinaire, une innovation harmonique, une maîtrise du son. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, Roman, c'est le côté rythmique.
Ah oui.
Ça, c'est tout à fait extraordinaire, cette manière de faire ce qu'on appelle la pompe. Alors évidemment, ça existe déjà dans la musique populaire, en particulier dans le jazz ou dans le pré-jazz, dans le ragtime, cette manière d'alterner les accords. Alors c'est quoi la pompe, Roman ? Expliquez-moi.
Alors, beaucoup de guitaristes, même avant Django, se sont essayés à ça. On connaît le duo célèbre Giovinuti et D-Lang. On connaît Charles Christian, en 1935, qui va faire la pompe aussi. Mais aucun va la faire comme Django. Pourquoi ? Parce que Django, d'abord, il a un instrument différent de ces musiciens-là. Mario Macaferri va lui faire une guitare, Selmer va lui faire une guitare qui va être extrêmement puissante, qui va être la plus puissante des guitares au monde. Il n'y a pas plus puissant que cette guitare. D'abord parce qu'elle est conçue comme un violon et elle va avoir une espèce de compression interne dans le son. Alors là, il a d'un seul coup une espèce d'instrument féroce, assez proche d'une caisse claire, finalement, dans le timbre, avec cette espèce de compression comme la caisse claire. Et donc là, il se dit, mais j'ai une guitare, mais j'ai aussi un instrument de percussion. Et il va faire la rythmique de sa guitare, non pas comme un guitariste, mais comme un percussionniste, comme un batteur. Et il va penser exactement comme eux, c'est-à-dire, il va penser le charleston qui se ferme. Pour lui, le 2 et 4, c'est le charleston qui se ferme.
C'est-à-dire, alors, on va expliquer le deuxième et le quatrième temps d'une mesure à 4 temps.
Voilà, d'une mesure à 4 temps. C'est-à-dire, si on faisait 4 accords similaires, ça nous donnerait... Ok, là, je vais couper les sons à chaque fois. Et Django se dit, je vais faire comme un charleston, je vais faire un premier temps et un deuxième, comme si le charleston était fermé. Ça va nous donner. De la même manière, quand, par exemple, j'ai accompagné, tout à l'heure, on a entendu Hanuman, qui est une balade, eh bien, c'est la même chose. Là, quand ils sont au ballet, on entend l'accord, donc on joue très, très légèrement. On entend ce ballet là, tu sais, qui tape.
Vous étouffez l'instrument au deuxième et quatrième temps.
Voilà. Je ramène ce que font les batteurs depuis toujours, les percussionnistes. Et en fait, Django applique ça sur son instrument tout le temps. Et quand il accompagne, c'est énormissime, puisqu'on entend l'harmonie, la basse, la rythmique. Et on sent en lui cette volonté de groove, cette volonté de placement rythmique à une époque où c'est pas encore gagné, ça. Et où d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'en France, c'est même la partie la plus pauvre, qu'on a beaucoup de mal à développer cet aspect-là.
À l'époque du quintet du Hot Club de France avec Stéphane Grappelli, ils sont donc deux solistes, Stéphane Grappelli et Django Reinhardt. Et derrière, il y a une contrebasse et il y a deux guitares. Pourquoi pas une seule guitare ?
Eh bien, moi, je vais être très dur dans ce que je vais dire. Et je pense que Django n'avait pas d'égal. Il n'avait aucun guitariste qui était capable de faire ce que lui voulait qu'on fasse, ce qu'il voulait entendre. Donc, il en a déjà pris deux pour grossir le son. Parce qu'il s'était rendu compte d'une chose, c'est que quand Stéphane faisait un chorus, lui, il était à l'accompagnement. Et derrière, c'était une locomotive qu'il y avait. C'était juste énormissime quand Django accompagnait. Et puis, dès que Django prenait un chorus, eh ben, il n'y avait plus rien. Parce que les mecs n'avaient pas cette énergie, ils n'avaient pas cette fougue. Donc, il s'est dit, je vais en mettre deux pour essayer de rattraper l'affaire. Mais même, hein, moi, j'y crois pas un instant.
Nous, on a la chance d'avoir trois guitaristes aujourd'hui au studio 119. Roman, avec vos deux fils, Richard Magnetti et Pierre Magnetti. On va donner un exemple de morceau où la pompe est vraiment très présente. On l'entend très bien, c'est After You've Gone, si vous voulez bien rejoindre vos instruments.
Thank you.
After You've Gone par le trio Roman Family, pour nous ici au studio 119 à Radio France, pour le matin des musiciens sur France Musique. Django improvisateur, Django rythmicien, Django mélodiste, chanteur sur son instrument, dont vous disiez que c'était presque une prothèse, enfin il en jouait quand même mieux que d'une petite prothèse. Le compositeur, c'est aussi quelqu'un qui s'est développé une idée, il n'écrit pas que des thèmes fantomatique de quelques notes. Par exemple, sa composition la plus célèbre, Nuages, c'est une phrase qui se développe sur la longueur.
Oui, c'est une composition très élaborée. Nuages reste un exercice de style dans l'enseignement même. On peut se servir de Nuages comme d'une démonstration d'un morceau qui est construit sur trois parties. Alors que souvent, le jazz est construit sur 32 mesures. On sait bien un thème, un pont et un retour au thème. Mais là, on est dans un cas de figure très différent où on a une construction, un développement beaucoup plus proche de l'art de la musique dite savante que du jazz.
Et puis on commence sur des accords de neuvième, tout de suite c'est très sophistiqué.
Immédiatement, oui. C'est très sophistiqué tout le long du morceau. C'était difficile à chanter, en fait. Tous ceux qui ont essayé de la chanter sont un peu cassés les...
Oui, parce que le début de la mélodie est assez chromatique.
Ben c'est ça. C'est ça.
Peut-être on peut juste donner l'exemple du début de la mélodie.
Un chanteur, dès que tu veux lui faire faire des...
Quatre demi-tons qui se suivent.
Hey, ils sont pas bons sur ces trucs-là, t'as vu? Ou alors les chanteurs lyriques. Ça, c'est la première partie. Alors, on a la deuxième. Ok. Des petites choses entre les deux. Ça, c'est le développement de la deuxième partie. Avec la résolution. On revient sur la première. Et on va aborder une troisième partie.
Ça module encore plus loin.
On pourrait presque imaginer une quatrième qui est la plus mystérieuse, la mineure. C'est un morceau très, très bizarre.
Une magnifique composition qui est reprise abondamment par les jazzmen du monde entier encore aujourd'hui, et dont Django lui-même a signé plusieurs enregistrements. Voici le dernier d'entre eux en 1953 avec le même trio, Maurice Vander, Pierre Michelot, Jean-Louis Vial.
Thank you.
la dernière version du thème Nuages, enregistrée par son auteur Django Reinhardt en mars 1953, accompagné par Maurice Vander, Pierre Michelot et Jean-Louis Vial, piano, contrebasse et batterie. Django Reinhardt, compositeur d'un thème très développé comme Nuages, il avait aussi une tentation de regarder du côté de la musique classique. On sait qu'il avait écrit des fragments de messe, on en a parlé la semaine dernière avec Vincent Bessière. Mais dès 1937, il enregistre un boléro avec un orchestre d'une douzaine de musiciens où figurent aussi des cordes. Vous pensez que c'est l'inspiration de la musique dite classique, notamment celle de Debussy, qu'il appréciait particulièrement dans ce boléro? On pense bien sûr à la référence à Maurice Ravel.
Mais j'en suis sûr. Je pense que Django est un musicien à l'état pur, guitariste par accident, mais musicien, ça c'est tout à fait certain. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est l'art de la sculpture musicale. Donc c'est l'utilisation des sons. C'est comment on va modeler une mélodie, comment on va la travailler, comment on va la faire sonner. On sent que c'est ça qui l'intéresse. Je pense que ça l'intéresse avant tout.
L'orchestration, l'instrumentation, oui. L'arrangement dans le domaine du jazz ou de la chanson, oh, c'est quelque chose qui le passionne.
Je crois qu'il a voulu à un moment donné étudier, faire ça, et puis plein de musiciens l'en ont dissuadé en lui disant « mais non, mais vous êtes un génie comme ça, faites rien d'autre ». Je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que Django, on aurait dû aller plus loin, il aurait aimé apprendre tout ça. Je suis sûr qu'il aurait voulu écrire toutes ces choses, j'en suis certain.
Thank you.
Bolero, non pas de Maurice Ravel, mais de Django Reinhardt, enregistré le 14 décembre 1937. Au moment de cet enregistrement, Ravel va disparaître quelques jours plus tard. Peut-être était-il déjà très malade. On peut voir là un hommage de Django Reinhardt.
Possible. Hein. C'est même probablement certain que Django ait été informé
de la maladie,
de la disparition imminente de Maurice Ravel.
Un moderne aussi que l'on sent même avant-guerre, avec cette façon de composer des thèmes qui sont comme des appels très dynamiques qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans ce qu'on appelle le jazz cool ou le jazz modal de Miles Davis. Par exemple, appel indirect, qu'on appelle aussi appel direct. Alors, c'est un terme de billard, Roman ?
Oui, je pense que c'est un terme de billard.
Parce que Django aimait beaucoup jouer au billard, entre
autres. Oui, c'est un très très bon joueur de billard. D'ailleurs, il voulait toujours rencontrer les meilleurs. De toute façon, il faisait partie de ces hommes surdoués. Il était doué à tout. Hein. C'était pas croyable. Mais ce thème, il est quand même mystérieux, appel indirect, parce qu'on est là aussi en 1938, et là, on est complètement expérimental. C'est-à-dire que ça, si on le replace dans le contexte du public de l'époque, jouer appel indirect en 1938, c'est vider une salle. C'est juste le faire exprès.
Alors, on va se le remettre dans l'oreille. Un an plus tard, Miles Davis signe ceci.
Thank you.
Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le So What de Miles Davis en 1959 et Appel indirect de Django Reinhardt en 1938. Mais le principe est le même, il n'y a pas vraiment de thème mélodique. On a ici une sorte d'appel ascendant et puis une réponse. Et après avoir répété cet appel plusieurs fois, on va passer juste un demi-ton au-dessus. Et revenir ensuite à la première proposition, Roman, c'est le même principe.
C'est exactement la même structure. C'est à l'identique la même chose. On a une petite différence de tempo, et encore ça, c'est juste une histoire de choix, parce qu'il y en a qui ont joué ce Watt beaucoup plus vite. Par contre, il y a une chose qui est particulière aussi dans Appel indirect de Django, c'est qu'on met là en évidence son handicap. Pour la première fois, il ne va pas composer un morceau par rapport à la musique, au sens propre. Là, il considère que ce qui prend le dessus, c'est la structure. C'est l'idée de jouer sur deux accords. Parce que personne ne ferait ça en 1938. Lui, il dit, moi, deux accords, ça suffit. Pas besoin d'en faire plus. Donc, il pense modal, d'entrée de jeu. Mais, pour lui, c'est la forme donc, qui devient l'essence de cette musique. Et donc, le contenu mélodique n'a aucune espèce d'importance. Il doit même être insipide. Et là, du coup, il va faire une démarche de technique d'handicapé. Réellement, puisqu'il va nous faire un morceau qui va se faire à deux doigts. Il se trouve que sur la guitare, quand on descend avec deux doigts de n'importe quelle case, voilà, je fais un demi-ton supérieur, je passe à la corde en dessous, toujours index majeur, et ça va nous donner ça. Et voilà.
Ce qui est le thème que l'on a entendu.
Voilà, le thème qu'on vient d'entendre. Il est vraiment né de ce handicap, ça ne faut aucun doute. Mais il n'a pas d'importance, au fond. Ce qui est important, c'est la forme. Et c'est ça que Django veut mettre en évidence.
Le même principe, on le retrouve dans Rythme futur. Pas le même principe mélodique, mais le principe de la forme.
Alors voilà, dans Rythme futur, il va réutiliser ce concept-là dans Le Pont. Mais par contre, il va s'inspirer très très largement, là encore, de Debussy. Et surtout de la gamme, ce qu'on a appelé unitonique.
La gamme par ton.
Ouais. Et là, tout le morceau est construit sur ce principe.
Nous sommes en 1940.
Thank you.
clarinette d'Hubert Rostin qui partage le rôle de soliste avec, bien sûr, Django Reinhardt. C'était en octobre 1940 pour ce rythme futur, bien sûr, signé Django Reinhardt. Les compositions de Django Reinhardt sont-elles beaucoup jouées aujourd'hui, Roman ?
Eh bien maintenant, de plus en plus, la nouvelle génération des guitaristes a fait un bond en avant sur le plan technique, sur tous les plans, sur le plan de la découverte, de l'écoute. Et en fait, ils intègrent aujourd'hui tous ces thèmes.
Alors qu'avant, on jouait surtout Nuages ou Malheur et mes rêves ou des choses un peu plus classiques.
Ben oui, mais parce que simplement, ces thèmes ont 50 ans d'avance et que personne ne les entendait. Les gens ne comprenaient rien de cette musique-là. Aujourd'hui, elle commence à rentrer dans la tête du public. Là, on est dans un cas d'un vrai décalage. C'est-à-dire que Django nous abandonne en 1953 avec une musique qu'on va commencer à comprendre en l'an 2000. Quoi.
En 1953, il joue ses compositions. Il continue aussi à jouer les standards et sur les plus rebattus, comme le Night and Day de Cole Porter, il fait œuvre du visionnaire.
Oui, le chorus du thème démarre sur ce qu'on appelle, nous vulgairement, la substitution tritonique. Et là, elle est en plein, c'est-à-dire les premières notes de son improvisation, c'est ça.
C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la dominante, voilà, on a le demi-ton au-dessus de la fondamentale.
Voilà, on est
une
en
manière de mettre un autre accord.
Mi bémol majeur. Et donc l'accord du cinquième degré qui normalement permet d'entrer, c'est si bémol, septième. Et là, Django va jouer mi. Le mi, c'est l'accord le plus loin dans la pensée et dans le visuel.
Sur la guitare. Mystérieux pour ce Night and Day de Cole Porter, repris par Django Reinhardt en mars 1953 avec Maurice Vander, Pierre Michelot, Jean-Louis Vial. Toujours cette séance de la fin de la vie de Django Reinhardt, absolument visionnaire. Est-ce qu'on peut apprendre à jouer du Django Reinhardt ? Est-ce qu'on peut transmettre l'art de Django Reinhardt, Roman ? Vous l'avez beaucoup fait, mais Est-ce que c'est possible ?
On peut emmener sur un chemin qui nous a ouvert un certain nombre de musiciens. Je pense qu'on ne transmet pas un musicien, on prend un chemin qui nous a ouvert.
Vous avez écrit plusieurs livres, notamment L'Esprit Manouche hein, chez Karish. Alors ça, c'est le côté, oui. La vogue du jazz manouche aussi, on sait bien, mais tout le monde ne joue pas comme Django.
Non, de très loin, mais...
Alors vous avez ouvert une école assez récemment, c'est la quatrième année maintenant, je crois, Swing Roman Academy, c'est dans le quartier de Pigalle, dans le quartier des musiciens,
voilà.
Rue Mansart. Qu'est-ce qu'on y apprend ?
C'est une école de jazz, c'est une école de formation musicale de jazz, avec des musiciens d'univers différents. Pas tous reliés à Django, mais tous adorateurs de Django. Mais la petite particularité, c'est qu'on essaye, je dis bien on essaye, on fait de notre mieux par rapport à ça, mais on essaye d'avoir tous les professeurs l'idée de faire chanter nos élèves dès qu'il s'agit de création, donc d'improvisation. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur des concepts de gamme, d'harmonie, alors évidemment, il y a un tronc commun où on apprend ces choses, mais dès qu'on entre dans le monde de l'improvisation, on demande à chacun d'être lui-même. Et d'être lui-même, c'est de chanter.
Ce qui veut dire aussi que vous privilégiez de manière importante la transmission par orale de cette musique ?
Absolument. Toute la partie pratique instrumentale se fait de manière orale. Mais il y a bien entendu, alors à
c'est,
côté...
C'est paradoxal pour quelqu'un qui a écrit plein de livres.
Oui, mais parce qu'à côté de ces cours de pratique instrumentale, il y a des cours d'harmonie, des cours de solfège, des cours de ce qu'on veut. Mais la personne qui voudrait étudier qu'un instrument, nous n'avons pas besoin de partition pour cela. On joue avec les oreilles, pas avec les yeux. Donc j'y tiens même beaucoup, je veux dire, la pratique instrumentale se pratique immédiatement avec les oreilles. On ne perd pas de temps à écrire des choses. À les... Voilà, ça c'est autre chose. Les gens qui veulent étudier la lecture et tout ça, c'est un autre paramètre.
La transmission, vous la pratiquez aussi en famille. Vous êtes venu avec Pierre Manetti et Richard Manetti, qui sont vos fils.
Oui, c'est la quatrième génération dans ma famille. Alors là, c'est marrant parce que tous les gens me disent « Mais alors, vous avez dû leur donner des cours et tout. » Pas du tout, je ne leur donne pas de cours du tout. Et c'est le même principe que dans l'école, c'est complètement philosophique. C'est-à-dire, je leur ai donné le goût, je leur ai donné un virus. C'est facile avec Django, hein. Quand on a attrapé le virus... Il suffit de le retransmettre. Ça va vite, ça va très vite, si on s'est tapé là où il faut. Et d'ailleurs, je les laisse faire, on ne joue pas du tout pareil. Et c'est très important que ça reste comme ça.
On se quitte, Roman, avec une de vos compositions. Ça s'intitule Fort Wes, et non pas Fort Django.
Ouais.
C'est pour Wes Montgomery, un autre grand guitariste qui aimait beaucoup Django aussi.
Absolument.
C'est le trio Roman Family, avec Pierre Manetti, Richard Manetti, et vous-même, Roman. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Arnaud.
Merci beaucoup Roman, merci à Pierre Manetti et Richard Manetti qui sont venus en votre compagnie ce matin pour ce trio Roman Family. Merci à Manuel Couturier et Martin Delafosse pour la prise de son, à Dorothée Goll et Françoise Monteil qui m'ont aidé à préparer cette émission. Christine Amado l'a réalisée comme chaque semaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre Matin des musiciens. Soyez à l'écoute à 11h. D'ici là, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr, et vous pouvez vous abonner au podcast. Thank you.